13h30 sur BAC FM 106.1, émission spéciale aujourd'hui. Vous le savez, la semaine des droits de l'enfant continue et se termine même, puisque aujourd'hui c'est la dernière émission consacrée à cette dizaine de jours un peu spéciale. Il y a quelques jours, on recevait l'association 3 Petites Graines qui venait nous parler de leur conférence pour mieux comprendre les émotions de nos enfants. Émission à retrouver sur notre site internet www.radiobacfm d'ailleurs. Et puisque son audience a dépassé les 150 millions de streams, on s'est dit qu'on allait réinviter cette belle association. Cette fois, c'est pour parler de la soirée Enfance et Sexualité du 27 novembre.
Allons enfants de toutes les patries, le jour de croire est enfin arrivé. Si alentour nous semions l'harmonie, l'étendard sanglant serait lavé. Entendez-vous dans les campagnes s'unir nos précoces petits gars, ils viennent jusque dans vos bras, vous serrez fort et soulever des montagnes.
Bonjour Oran Beresford-Wood, merci d'être avec nous sur BAC FM.
Merci à vous, c'est un plaisir.
Vous êtes présidente de l'association 3 Petites Graines. Chers auditeurs, petit trigger warning avant de commencer cette émission, je vais aborder par mes questions des thèmes très durs, notamment liés aux agressions sexuelles sur mineurs. Si ce sujet vous trigger, comme on dit, ou simplement si ces thèmes vous mettent dans un certain malaise, alors je vous invite à baisser le son quelques minutes. On va parler de cette soirée Enfance et Sexualité, ça ?
Oui, Enfance et Sexualité, comment s'outiller, intimité, consentement et prévention.
Alors, pour parler de cette soirée Enfance et Sexualité, comment s'outiller, de quoi s'agit-il ?
C'est un temps où Fanny, qui est également infirmière comme moi, et donc moi-même, animons, donc c'est la troisième édition, pour pouvoir aborder un sujet que l'on peut qualifier de sensible, et qui pourtant fait partie du quotidien, que l'on soit parent ou professionnel, avec la très classique question comment on fait les bébés, ou bien d'un point de vue plus professionnel, comment on accompagne les enfants de tous âges sur la découverte du corps, sur les respects envers l'autre, envers soi-même, sur la découverte du monde à travers nos sens. Et en fait, c'est une manière aussi de décomplexer ces questions, pour éviter qu'elle n'en soit un tabou, parce que quand tout ce qui concerne le corps est tabou, on ouvre la porte en fait aux auteurs. Et nous, ce que l'on veut, c'est d'offrir aux parents et aux professionnels des outils pour qu'ils puissent, aux côtés des enfants, leur permettre de se protéger.
Quand vous parlez de professionnels, on parle des infirmiers, je suppose. De quel genre de professionnels, de professionnels de l'enfance, de façon générale, ouais.
De façon très générale. Alors moi, je pense notamment à toutes les personnes au contact d'enfants, que ce soit dans des multi-accueils, dans des garderies, en périscolaire, à l'école, maternelle, primaire, mais également collège, hein, parce que ça ne concerne pas que tous les tout-petits. On donne aussi des outils pour les ados. Et ça peut aussi concerner des soignants en service de pédiatrie, en maternité, en tant que médecin, en tant que libéral, les orthophonistes ou autres, parce que quand on accueille des enfants au quotidien, on peut, à force d'être régulièrement à leur contact, devenir des adultes qui font partie du réseau de sécurité ou de protection, c'est-à-dire devenir des adultes de confiance pour l'enfant et que celui-ci investisse l'espace pour déposer parfois son secret, son fardeau. Et qu'est-ce qu'on en fait ? Comment on réagit ?
C'est ce que j'allais vous demander. Quand on parle d'enfants, en fait, la conférence, elle donne des astuces pour des enfants petits, moins petits, ados, pas ados ?
Alors, on part du tout petit. Alors, c'est vrai que pour le nourrisson, c'est un peu plus délicat d'avoir des outils directement en lien avec lui. Donc là, c'est plutôt, nous, en tant qu'adultes, quelle posture on adopte et quelles bonnes habitudes, on va dire, on adopte dès qu'on est au contact de ce jeune enfant. Et on s'attarde vraiment, oui, sur la petite enfance et les bonnes habitudes, les bonnes bases qu'on propose dans la petite enfance, on a juste à les cultiver et à les solidifier ensuite jusqu'à l'adolescence et jeune adulte. Donc c'est pour ça que c'est utile à tous les âges, même si on ne fait pas le travail et qu'on adapte les outils en fonction de l'âge.
Selon le ministère de la Santé, un enfant est victime d'agression sexuelle, de viol ou d'inceste toutes les 3 minutes. Est-ce que parler d'intimité et de consentement dès la petite enfance, c'est aussi un moyen de lutter contre ça ?
Ah bah tout à fait. Alors déjà, les chiffres sont absolument effarants. On estime que ça concerne un enfant sur 5, bon, un enfant toutes les 3 minutes. à l'heure, ça fait quand même beaucoup d'enfants victimes. Nous sommes dans une société qui protégeons peu les enfants sur ce sujet-là, parce qu'on pèse face à une industrie qui est beaucoup plus lourde que nous, qui est notamment tout ce qui est l'industrie pornographique. Donc ça rentre en ligne de compte, et là c'est de permettre aux adultes de prendre conscience de l'environnement dans lequel les enfants évoluent, parce que de toute façon, ils ne nous attendent pas pour aller chercher des réponses aux questions auxquelles nous ne répondons pas. Donc si c'est pas nous qui leur donnons les billes, alors que là on pourrait leur offrir des réponses qui soient sécures, dans un espace de parole qui soit protégé, ils iront les chercher ailleurs, auprès d'adultes qui auront certainement des intentions un peu moins louables, voire carrément pas du tout, et sur des sujets qui seront certainement inadaptés. Nous savons aujourd'hui que la prévention, ça reste l'outil le plus puissant pour protéger les enfants, et c'est dans cette optique-là que la soirée a été construite et est né il y a maintenant 3 ans.
Il est marqué sur le pitch de présentation que cette soirée est à destination des professionnels et des parents, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que le grand absent de cette conférence, si je puis dire, c'est pas les enfants ?
Alors, il est vrai que nos soirées, souvent, c'est pour les parents, pour que ça serve aux enfants derrière. Je ne pense pas que ce que l'on propose ce soir, ça soit à destination des enfants directement. C'est vraiment un parti pris. Après, nous accueillons les enfants non marcheurs parce qu'on sait qu'il y a des parents qui parfois ne peuvent pas venir sans leurs enfants, qui ont déjà des plus grands et qui sont jeunes parents d'un plus jeune. Donc là, on dit que c'est OK, ils peuvent venir avec leurs tout petits, mais c'est pas eux le destinataire de la soirée, et si on choisissait qu'il soit destinataire, on proposerait plutôt des ateliers ludiques autour de jeux, autour d'activités adaptées, pas sur du contenu informatif comme on va pouvoir le présenter.
Ce format de jeu, d'activités adaptées, c'est quelque chose que vous faites à côté ou c'est un projet que vous aimeriez faire ?
Alors aujourd'hui, ça n'a pas lieu sur le département. Nous, en fait, ce sont des activités que l'on va présenter justement aux adultes ce soir. Pourquoi pas, ça pourrait faire l'objet d'ateliers, d'activités. C'est vrai que le planning est déjà conséquent, c'est pour ça qu'on ne va pas plus loin. Mais oui, si des écoles nous ouvraient les portes, si des crèches nous ouvraient les portes, pourquoi pas.
On le sait, la sexualité est assez liée à la question du genre. Et là encore, des études montrent des grandes inégalités dans la cour de récréation. Les garçons sont invités à se dépenser physiquement quand on demande aux filles d'être plus calmes. Est-ce que l'autre absent de cette soirée, c'est pas la question du genre, justement ?
C'est une bonne question. C'est vrai qu'on aborde cette soirée d'un point de vue physiologique, en première porte, et du développement de l'enfant. Le genre, c'est une question qui se tisse tout au long du développement de l'enfant, et je pense que c'est pour ça qu'on l'a pas abordé ou qu'on choisit de ne pas l'aborder ce soir, parce que pour moi ça mérite d'avoir un temps d'échange à part entière sur le genre. Et ce soir, c'est vraiment comment on protège les enfants indépendamment du genre. C'est vraiment pas la cible, même si c'est en filigrane. C'est tout enfant, quel qu'il soit, c'est ce qui fait l'enfant en tant qu'entité, vraiment, il se suffit à lui-même, comment il peut se protéger et comment il peut saisir ou en tout cas demander de l'aide.
C'est pour tous les enfants, il, elle ou y'elle, en l'occurrence. Quels sont, selon vous, les messages clés à transmettre aux parents ou aux professionnels pour que la prévention devienne un geste du quotidien ? Alors, l'idée, c'est pas de spoiler la conférence ou l'événement. Cependant, est-ce que... quelques tips, quoi.
Alors, comment on aborde la question d'un point de vue ludique pour que ça reste un moment familial, qui ne soit pas rigide, pour lever le tabou ? Donc, comment on peut en faire un sujet du quotidien à travers le jeu, à travers le livre, à travers la musique, à travers la découverte, et comment on se détache aussi du regard de la société sur ces sujets-là. Donc ça, je pense que c'est quand même la dynamique de la soirée. Et nous, en tant qu'adultes, qu'est-ce que ça vient chercher chez nous ? Qu'est-ce que ça vient dire aussi de la manière dont on a été éduqués ? Et qu'est-ce que c'est qu'être parent en 2025 avec ces sujets de société qui sont omniprésents ? Et donc comment on s'articule entre d'un côté on accompagne nos enfants et d'un côté ça vient aussi nous renvoyer à l'enfant qu'on a été. Donc c'est la danse entre prendre soin de soi, prendre soin de notre petit, tout en apportant beaucoup de douceur et de joie sur des aspects qui font partie de la parentalité. De toute façon, on ne peut pas passer à côté. Mais j'irai pas plus loin parce qu'après, je vais vraiment spoiler la soirée.
On vous invite évidemment à y aller, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont beaucoup sous le thème du tabou et les agresseurs jouent de ce tabou. Mmh. On sait que la droite et l'extrême droite ne veulent pas du tout entendre parler de sexualité à l'école. Est-ce que c'est suffisant, selon vous qui êtes un peu experte du sujet, la politique publique qu'on mène autour de cette prévention? On sait que dans les lycées, il y a quelques séances par an, mais bon, est-ce que c'est pas insuffisant tout ça?
Moi, je pense qu'on n'en fera jamais trop. Si on le fait de manière adéquate.
C'est-à-dire ?
Si on l'adapte aux besoins de l'enfant, si on l'adapte au niveau de développement de l'enfant, si on l'adapte aussi à la dynamique familiale. C'est un sujet qui est autant familial que public. Enfin, là, on peut faire la différence entre le privé et le public. Et d'ailleurs, c'est bien là où on a besoin d'en parler avec les enfants. Quel est le toucher intime? Est-ce que c'est privé? Est-ce que c'est public? Est-ce que on peut toucher tout le monde à tous les niveaux? Et finalement, c'est un sujet qui vient parler de ça. Et tant qu'on n'aura pas saisi l'importance de cet enjeu, on passera à côté du sujet. Parce que tant que ça restera tabou, tant qu'on estimera que c'est que du ressort des parents, on laissera la porte ouverte aux auteurs. Et ça, je sais que c'est un message qui dérange, parce que on n'a pas envie de se saisir de la patate chaude, et les violences sexuelles, c'est une patate chaude. Mais tant qu'il y aura un enfant sur cinq de concernés, il faudra quand même que tout le monde mette la main à la pâte.
Il y a une énorme place des parents. Il y a une place aussi à jouer au niveau scolaire.
Oui. Niveau scolaire et avant, hein, même avant que l'enfant soit scolarisé, tous les adultes à leur niveau ont un rôle à jouer, autant dans la manière d'accompagner respectueusement l'enfant, ne serait-ce que par le consentement, le respect de l'intégrité, le respect des limites de l'enfant sur des aspects très basiques du quotidien, mais le change, l'alimentation, etc. Tant qu'on ne travaillera pas la question des violences sexuelles par le respect de l'enfant dans toutes ses dimensions, de toute façon, on n'y arrivera pas. Et donc aujourd'hui, ça vient aussi questionner la manière dont on va accompagner nos enfants dans une dimension où on écoute l'enfant, et où on accueille et on respecte la parole. Combien d'enfants ne sont pas crus quand ils disent ce qui se passe? Et les enfants nous disent ce qui se passe. Sauf qu'on veut, juste, on ne veut pas les entendre.
La majorité des agressions sexuelles sur enfants sont commises par des hommes. La majorité des agressions sexuelles tout court, d'ailleurs. Est-ce que, au-delà d'être un problème éducatif, est-ce que ce n'est pas aussi un problème sociétal dû à la société patriarcale dans laquelle on vit?
Alors, au-delà du fait que ça soit perpétré par des hommes dans la majorité des cas, il faut savoir aussi que 80% des violences sexuelles sur les enfants sont perpétrés dans le domaine intrafamilial. Et là, ça pose aussi la question de comment on accompagne les parents dans une dimension très large. Et évidemment, y a un aspect patriarcal dans le sujet. Ce qui va manquer, je pense, pour permettre à la société de pouvoir aller vers une vraie prise de conscience et donc des propositions concrètes, ça va être d'admettre que le sujet, il est sociétal, il n'est pas qu'intrafamilial, même si la majorité des violences est dans le domaine intrafamilial. Et là, on touche du doigt, en fait, un problème de santé publique. L'impact des violences sexuelles, ça a des retentissements qui sont multidimensionnels. Et si on prend en compte le fait que de protéger les enfants, c'est un sujet de santé, peut-être qu'on aura un levier suffisant pour aller plus loin.
Donc c'est pas des faits divers, c'est un sujet sociétal et de santé publique. Vous parliez de solutions concrètes, parlons-en des solutions concrètes. Si un enfant se confie sur une situation inconfortable qu'il vit, s'il se confie à ses parents, sans doute que nos auditeurs et nos auditrices ne sont pas toujours armés correctement pour y répondre. Est-ce que de la même façon que ma question tout à l'heure, vous auriez quelques conseils sur comment orienter un enfant qui se dit « j'ai eu un problème avec tel de façon très large ?»
Alors ça demande d'avoir un espace pour l'enfant. ça demande de pouvoir avoir du temps à consacrer pour entendre ce que l'enfant il a à nous raconter, à nous expliquer. Parfois la parole elle est difficile, donc ça peut nécessiter de devoir respecter des silences, d'avoir aussi des éléments pour pas nécessairement l'aiguiller sur ce qu'il a à nous dire, mais le mettre suffisamment en confiance pour qu'il puisse se livrer complètement et se lâcher. Donc ça demande du temps, ça demande de la disponibilité, pas que en matière de temps, mais aussi émotionnel. Donc malheureusement, nos enfants, ils choisissent pas toujours le moment qui nous conviendrait à nous pour nous lâcher un gros dossier. Et ça peut du coup parfois nécessiter de demander du relais. Donc d'avoir aussi autour de nous des personnes avec lesquelles on est suffisamment en confiance pour pouvoir laisser notre enfant vers quelqu'un qui serait plus disponible, soit par rapport au temps, soit par rapport à nos émotions.
Ça pourrait être quoi ça ? Ça pourrait être une personne de confiance ? Ça pourrait être un organisme de santé ?
Oui, ça peut être...
Une association ?
Alors, un professionnel, ça peut être... Alors, la délicatesse, c'est de ne pas non plus différer trop loin. C'est-à-dire que quand l'enfant, il est prêt à se confier, il ne faut pas qu'on ait un délai de 3 mois parce que la psychologue, elle n'a pas de rendez-vous avant. Ça, ça reste de la prise en charge. Mais sur l'accueil de la parole, ça peut être très rapidement le coparent, si c'est possible. Peut-être un grand-parent, un oncle, une tante, une voisine en qui on a confiance. Voilà, quelqu'un qui va pouvoir être à nos côtés, voilà, pour nous accompagner, parce que c'est pas toujours facile d'entendre et de recueillir la parole de son propre enfant.
Sur la question pornographique, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est une question qui est majeure à certains âges. Dès 12 ans, plus de la moitié des garçons ont déjà visité un site pornographique, c'est beaucoup plus bas pour les femmes. On le sait, les contenus sont très hétéronormés. La femme est vue comme un objet. Ça a été très documenté dans un rapport parlementaire qui s'appelait « L'enfer du décor », il y a de ça 2 ou 3 ans, me semble-t-il. Est-ce que la prévention au porno, c'est aussi un axe pour parler sexualité aux plus jeunes ?
Alors, pour répondre à cette question, moi, je dirais plus... À mon sens, à mon niveau, un enfant sur 3 de 12 ans a accès à du porno, donc tout confondu. Donc j'imagine que voilà, ça concerne les garçons et les filles, vu les chiffres que vous nous présentez avant. Si à 12 ans, on va du côté du porno, c'est certainement aussi... alors, il y a peut-être un effet de groupe où... on va chercher à vivre les mêmes expériences que les copains, ce qu'ils nous ont raconté, etc. Mais à la base... Pourquoi on se tourne vers le porno ? Parce qu'on a des questions. En quoi le porno peut répondre à ces questions ? Parce que si on a posé déjà la question, on n'a pas eu la réponse. Sauf que le porno ne répond pas à nos questions de qu'est-ce qu'une première expérience avec une fille ? Qu'est-ce qu'une première expérience avec un garçon ? On sait que les contenus pornographiques actuels, ils sont très violents, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs dizaines d'années. Donc on est aussi sur une grosse bascule au niveau du message véhiculé par le contenu pornographique qui vient modéliser les relations garçon-fille, fille-fille et garçon-garçon. Et ça, c'est la vraie problématique. Mais en fait, la cause de cette flambée de consommation, c'est certainement parce que nous, adultes, on n'offre pas de réponses qui conviennent aux enfants. Or, les enfants qui posent des questions, c'est qu'ils sont prêts à entendre les réponses. Mais si on botte en touche, si on les noie dans des images un peu imaginaires, tissées de toutes parts, l'enfant, il le sent et il se dit « Ok, ils ont essayé de me rouler, donc moi, je vais aller chercher ailleurs. Ah, les copains, ils m'ont dit que... » Et donc, ça ouvre la porte à des découvertes, des expériences qui ne sont pas en mesure d'accueillir, d'assimiler et qui ne sont pas en mesure d'analyser puisqu'on n'a pas d'espace où ils peuvent avoir du contenu adéquat pour pouvoir faire la part des choses.
La conclusion de ce rapport parlementaire disait qu'au fond, le problème n'était pas tant le porno en tant que tel, mais le porno violent, le porno patriarcal, le porno où la femme était vue comme un objet. Vous êtes d'accord avec ça ?
Alors... Pour moi, le contenu pornographique, c'est un contenu qui doit être dispensé ou en tout cas mis à disposition avec des règles très encadrées, certainement pas disponible pour des enfants.
De 12 ans.
De 12 ans, alors encore moins. Mais moi, pour ils n'ont absolument pas la maturité émotionnelle, physiologique, pour pouvoir analyser, critiquer et accueillir la violence des images, la violence des propos, la violence du message. Et je ne suis pas d'accord avec le fait que c'est qu'une question patriarcale et de contenu. Moi, je ne suis pas d'accord avec le fait que des enfants puissent y accéder tout court. Que ça soit parce que ils sont sous la houlette d'un plus grand qui va leur offrir l'accès, ou que même si on a 12 ans et qu'on arrive à craquer les barrières de sécurité, on puisse quand même y accéder. Mais là, on est face à un mastodonte financier qui pèse très lourd dans la balance. Et nous, voilà, il faut qu'on s'unisse pour pouvoir renverser la balance.
S'unir, ça passe par la conférence que vous allez organiser. Moi, j'aimerais revenir sur le format de cette conférence. Comment ça va se passer ? C'est donc un intervenant, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. C'est un exposé, comment vous le voyez ?
Donc, c'est Fanny et moi qui l'animons. Fanny, qui est très au fait aussi de ces sujets de par le service dans lequel elle exerçait jusqu'à peu. Donc on a déjà un premier temps où on va présenter alors quelques chiffres, parce que c'est dommage, mais les chiffres sont ce qu'ils sont, et donc c'est intéressant quand même qu'on les présente au public pour pouvoir introduire ensuite quelques notions, des outils, de manière à ensuite en échanger avec les professionnels et les parents qui seront dans la salle et donner un petit peu plus de concret à nos propos.
Donc les parents pourront échanger avec vous pour avoir plus de renseignements.
Oui, et la plupart des ouvrages sur lesquels nous nous appuyons seront proposés à la vente par la librairie Les Audacieuses à la fin de la conférence, si les parents souhaitent repartir avec à la maison.
Transition toute trouvée, c'était ma prochaine question. La librairie féministe, Les Audacieuses sera présente. Bac FM vous recommande bien évidemment l'adresse. Est-ce que vous avez deux, trois ressources à recommander, livres, BD, romans, que sais-je ?
Moi, je trouve que les petits illustrés de l'intimité du volume 1 au 4 sont de ressources très précieuses que vous pouvez utiliser à différents niveaux, soit uniquement avec les illustrations si vous êtes avec des plus petits, soit en libre accès si vous avez des plus grands, fin de primaire, début de collège. Je trouve que vous ayez des filles ou des garçons à la maison, peu importe, le livre sur l'anatomie du garçon, le livre sur l'anatomie de la fille sont autant intéressants pour l'un comme pour l'autre, pour aussi ouvrir les questions sur l'autre genre. Le livre aussi de Mylène Vigneault qui porte sur les secrets, c'est l'histoire d'un petit singe qui vient présenter différents secrets, les secrets papillons, les secrets cailloux, et qui vient illustrer et discuter de qu'est-ce qu'on peut garder pour soi, qu'est-ce qu'on a à confier, et qu'est-ce que ça fait de pouvoir se libérer d'un secret, comme ça fait du bien, etc. Donc ça, c'est en matière de livres des contenus que j'aime beaucoup, qui sont très accessibles. Et après, ça va dépendre des âges. On peut aussi aller du côté des comptines, du côté des jeux. Et donc là, c'est des outils que l'on va proposer ce soir à la conférence pour que les parents à la maison ils puissent, très pratico-pratique et de manière vraiment très ludique, adapter et proposer des contenus adéquats pour discuter de ces questions-là.
En fait, on peut parler de ces sujets très lourds, sexualité et enfance, via des plateformes auxquelles on ne penserait pas en premier lieu, quoi. C'est-à-dire théâtre, musique.
Oui, exactement. Là, on a une comptine qu'on va proposer, des jeux, mais très, très accessibles, très simples. Qui, même avec des ados, alors oui, ils vont peut-être dire ouais, ça, c'est bon, là vous nous présentez la silhouette, une silhouette et on discute du toucher. Oui, mais en fait, c'est d'ouvrir aussi l'espace de parole. Et généralement, c'est d'offrir l'opportunité de dire ah, au fait, ça me fait penser, bah oui, moi, une fois, s'il m'est arrivé ci, il m'est arrivé ça. Voilà. Donc,
Quand je vous écoute, j'ai l'impression que c'est ça qui, en fait, qui manque dans notre pays, en tout cas, c'est l'espace de parole. On manque d'espace.
Ah, on manque d'espace pour écouter les enfants, ça c'est sûr.
Votre collègue l'autre jour disait que la France n'était pas un pays kid-friendly. Alors, en l'occurrence, c'était pour parler des émotions, mais j'ai l'impression que sur ces sujets-là aussi, on n'est pas très kid-friendly.
Bien sûr, et puis alors, si là on pouvait éviter d'en parler, parce que nous les adultes, nous sommes très mal à l'aise avec ce sujet, ça nous arrange bien, ça nous arrange bien.
Il y a sans doute, un côté gêne, en tout cas, construit par notre société. Les Trois Petites Graines, j'ai dit en introduction, c'est une belle association. Comment nos auditeurs et nos auditrices peuvent vous soutenir ? Est-ce qu'on peut aller sur votre site internet ? Est-ce qu'il y a un système de dons ? Comment ça marche ?
Alors, nous avons un site internet et vous pouvez aussi nous retrouver sur Hello Asso. L'avantage de nous retrouver sur Hello Asso, c'est qu'il y a la possibilité d'adhérer et vous avez aussi l'accès aux billetteries gratuites. Donc tout est centralisé. Nous sommes également sur les réseaux sociaux et depuis les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver vers le site et vers Hello Asso.
Sur les réseaux, c'est Trois Petites Graines, je suppose.
Exactement. Et donc, nous sommes sur Facebook et sur Instagram.
pareil que Bac FM. C'est génial. Votre message final aux familles ou aux professionnels qui nous écoutent et qui aimeraient venir à votre conférence?
N'ayez pas peur. C'est un moment de partage qui se veut léger, pour parler d'un sujet qui l'est beaucoup moins et qui se veut accessible, ludique. Le but, c'est de vraiment vous offrir des ressources par rapport à vos besoins. Donc, on a aussi besoin de vous pour cette soirée, pour que vous puissiez poser vos questions et qu'on puisse s'ajuster le plus finement possible à ce que vous vivez actuellement.
Merci, Oran Beresford-Wood. Je rappelle que vous êtes présidente de l'association Trois Petites Graines. Cette émission est maintenant terminée. C'était la dernière concernant les droits de l'enfant. Je précise en revanche que ce sujet ô combien important continuera d'être abordé toute l'année sur Bac FM. Je rappelle également que toutes les émissions sur ce sujet sont disponibles sur notre site internet, c'est www.radiobacfm.fr. Quant à moi, je vous invite à rester à l'écoute de votre radio préférée, celle qui va haut et fort.